Monsieur Moncker Ntiaye, bonjour.
Bonjour.
Dans quelques jours, il va se tenir à New York l'Assemblée annuelle. Quels sont les points clés que vous porterez au nom de la République centrafricaine à la tribune de cette Assemblée générale?
Merci d'abord pour l'intérêt que vous portez à la MINUSCA et à ses activités en République centrafricaine. Bon, vous avez voulu certainement parler de l'Assemblée générale des Nations Unies qui s'ouvre dans quelques jours. Naturellement, la question de la situation en Centrafrique sera l'objet d'échanges au cours de cette Assemblée générale des Nations Unies.
Parlons justement de la situation en Centrafrique. D'aucuns disent que vous plaideriez pour le renouvellement du mandat de la MINUSCA. Quels sont les éléments qui justifieraient l'intérêt de cette présence des casques bleus dans ce pays?
Vous savez, la MINUSCA est une opération de maintien de la paix. C'est comme la MINUSMA qui est au Mali, c'est comme la MONUSCO qui est à côté en République démocratique du Congo. Donc la mission est là depuis 5 ans. Elle travaille sur la base de principes qui résistent toutes les opérations de maintien de la paix. L'autre principe aussi important, c'est le non-recours à la force. Donc, parfois les gens ne comprennent pas. Parce que une mission de paix, c'est une mission qui est déployée pour faire la paix, pour construire la paix, accompagner le processus de paix. Donc, une mission de maintien de la paix n'est pas une mission de guerre.
Une mission de paix, oui. Mais pendant que la situation sur le terrain reste délétère, comment vous allez faire pour accompagner cette paix-là dont vous parlez?
Alors, notre mission est une mission multidimensionnelle. Nous avons un accord de paix qui a été signé, comme vous le savez, depuis le 6 février 2019, que nous appelons l'accord de Bangui, parce qu'il a été signé à Bangui, même s'il a été négocié et paraffé à Khartoum. Et donc, en usant de nos beaux offices, en travaillant avec le gouvernement, en travaillant également avec les 14 groupes armés qui l'ont signé, nous sommes dans tous les mécanismes de suivi de l'accord qui ont été mis en place depuis sa signature. Il y a donc beaucoup de structures de suivi que nous accompagnons en tant que MINUSCA par nos bons offices.
Justement, parlons de cet accord, l'accord de paix qui a été conclu entre le gouvernement centrafricain et les 14 groupes armés actifs dans ce pays. 7 mois plus tard, la situation est loin de s'améliorer. Est-ce qu'on ne peut pas parler d'un constat d'échec?
Il faut être trop patient. Ouais, les accords de paix, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. On a parfois des avancées, parfois des reculs. Et je donne toujours l'exemple dans cet nombre d'accords, l'accord de paix signé au Mali, qu'on appelle l'accord d'Alger aussi, depuis plus de 5 ans. Vous voyez également l'accord de paix signé en Colombie, il y a quelques moments. Vous avez vu que le numéro 2 des FARC s'en est retiré et est retourné reprendre la guérilla. Donc, vous voyez, c'est comme ça que les accords de paix fonctionnent. Mais faire le maximum pour que les signataires restent dans l'accord. Il y a toujours des exactions sur les populations civiles, il y a toujours des barricades qui sont installées, des taxations illégales qui sont perçues sur le terrain, mais nous constatons quand même qu'il y a une décroissance, une baisse des violences. Et il faut s'en féliciter. Il y a un comité exécutif de suivi de l'accord et lors de ce comité, nous avons interpellé les uns et les autres sur les cas de violation. Quand même des groupes armés comme Abdoulaye Sen, du FPRC, comme Al-Katim, du MPC, donc, qui ont fait le déplacement de Bangui lors de ce rendez-vous. Il faut être patient pour qu'on avance un peu dans la consolidation de la paix dans ce pays.
Vous avez déploré la persistance des cas de violation des droits humains. Mais pourquoi des sanctions ne sont pas prises à l'encontre des acteurs?
Il y a l'article 35 de l'accord qui parle des sanctions, mais ne définit pas les types de sanctions et la nature des sanctions. Et donc, un travail est en train d'être fait pour préciser la nature des sanctions. Quel type de sanctions? Si un groupe ou un signataire viole l'accord, quel type de sanctions on peut lui appliquer? Donc, ce travail n'avait pas été fait. Certainement, dans les prochaines semaines, sera finalisé.
Malgré cet accord, malgré également la présence des casques bleus, on a récemment assisté à un regain de violence à Birao, dans le nord du pays. Comment vous réagissez à cet incident?
Nous l'avons condamné fermement parce qu'il s'est agi d'une violation flagrante de l'accord qui interdit tous les mouvements militaires non autorisés. Et donc, cette confrontation, pour rappeler, entre le FPRC et le MLCJ à Birao, avec des morts et surtout les conséquences humanitaires qui sont catastrophiques. Aujourd'hui, nous avons entre les bras plus de 13 000 personnes déplacées. Nous sommes en train de sécuriser la ville. Nous avons mis en garde tous les groupes armés pour qu'ils évitent toute reprise des combats. Et je pense que jusque-là, la situation est calme. Nous allons encourager toutes les initiatives de médiation parce qu'il ne faut pas que le conflit se transforme en conflit interethnique extrêmement grave. Donc, nous avons pris contact avec le sultan. Nous sommes en train, en tout cas, de parler aux autres pour que la situation se calme, que la MINUSCA contrôle la ville, que tous les groupes armés sortent de Birao.
Est-ce qu'on peut s'attendre également à l'usage de la force?
Mais l'usage de la force n'est pas absolument interdit. Je l'ai dit, l'un des principes essentiels des opérations de maintien de la paix, c'est le non-recours à la force. Mais l'usage de la force est autorisé dans des conditions précises. Mais comme je le dis encore une fois, il n'y a pas de solution militaire à une crise comme celle qui sévit en Centrafrique. La solution ne peut être que politique. Je pense que tous les acteurs le comprennent, et le gouvernement et les groupes armés.
Monsieur le représentant spécial, le comité de sanctions des Nations Unies va se pencher bientôt sur la problématique de l'embargo imposé sur les armes à destination des forces armées centrafricaines. Quel discours tiendrez-vous à cette occasion?
Ça, c'est une affaire du Conseil de sécurité. Nous n'intervenons pas sur la question des sanctions. Bon, c'est une demande forte du gouvernement que l'embargo soit levé. Il appartiendra au Conseil de décider de la question de la levée ou non.
Mais en cas de non-levée de cet embargo, pourrait-on s'attendre à des mécanismes pour mieux bloquer le circuit des trafics d'armes à travers ce pays?
Oui, bon, les gens ont raison de signaler que les groupes armés profitent de la situation d'accalmer pour se réarmer. Vous savez, les frontières du pays sont également poreuses. C'est un pays très vaste où l'État n'est pas présent sur tout le territoire national, donc ce qui facilite le trafic de tout genre, trafic de ressources naturelles, trafic d'armes également. Je pense qu'on doit également mettre fin à cela, empêcher les groupes armés de s'armer.
Dernière question, monsieur le représentant spécial. Quelle lecture faites-vous de l'instabilité politique qui continue de viser la République centrafricaine? Allusion faite aux dernières sorties foudroyantes de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Abdoulkarim Mekassoua, qui déclare la guerre au président Fosnar Kash Ouattara sur fond d'accusation de corruption.
Nous ne nous mêlons pas du jeu politique intérieur. Nous respectons la souveraineté du pays. Ce que nous souhaitons, c'est que le débat politique soit un débat serein, tout à fait calme, que tous les discours de haine soient bannis, que la démocratie fonctionne. Ce pays va vers des élections l'année prochaine. L'organisation des élections est extrêmement importante et nous y travaillons avec le gouvernement pour aider à ce que les élections se déroulent dans la sérénité, à la satisfaction de tous les partenaires de la République centrafricaine, dont les Nations Unies.
Monsieur Mankeur Ndiaye, je vous remercie.
Merci.